Faire la jonction avec ce qui a précédé ce matin, je rappellerai deux, trois choses essentielles. C'est d'abord qu'il ne faut pas se centrer sur une seule traduction de la demande du Notre Père, remets-nous nos dettes, qu'il y a plusieurs traductions possibles, plusieurs approches possibles selon qu'on prend le texte de saint Matthieu ou de saint Luc. Et donc il faut élargir, pas simplement prendre la remise de dette ou le pardon, mais, comme nous disait Jean-Yves Leloup, la libération intégrale de toute obligation. Nous ne sommes pas obligés d'aimer, comme il dit dans son beau texte. Même Dieu, nous ne sommes pas obligés de l'aimer. Parce que si l'amour rime avec obligation, ce n'est plus de l'amour, tout simplement. Et deuxièmement, nous étions partis de l'étymologie du mot pardon qui signifie le don total, le don gratuit, pardonner, faire donare, c'est la totalité, la complétude, la plénitude de la gratuité. Et donc le pardon est avant tout un don. Et nous avons terminé en survolant, c'est vraiment survolé, le premier testament où nous voyons que le plus beau nom de Dieu, c'est miséricorde, compassion, pardon. C'est véritablement le nom de Dieu, le pardon. Comme disait le Père Alphonse dans le texte que je lisais en terminant, en pardonnant, et il le fait sans cesse, Dieu montre ce qu'il est, c'est-à-dire don parfait. Dieu, par le pardon, révèle son vrai visage, afin que le pardon soit désormais la nouvelle loi qui régit toute relation humaine. Nous abordons maintenant ce qu'on appelle le Nouveau Testament, c'est-à-dire le livre de l'incarnation du Verbe. Et si le plus beau nom de Dieu est miséricorde et pardon, qu'est-ce qui peut sortir des entrailles de miséricorde de notre Dieu, sinon le Verbe totalement miséricordieux ? Avec l'incarnation du Verbe, c'est véritablement le soleil qui se lève sur la vie spirituelle et la vie humaine tout court. Comme écrit encore le Père Alphonse dans le bel article que je vous conseille de lire, « Avec Jésus, les cieux se déchirent et le pardon descend dans notre pain quotidien. » Et si Dieu vient vivre parmi nous, c'est parce qu'il a compassion de notre souffrance, de notre égarement. Le pathos de Dieu, comme on le disait tout à l'heure, la souffrance de Dieu, il a voulu entrer dans la souffrance même de l'être humain, c'est-à-dire la nôtre, vivre de notre vie, souffrir de nos peines, partager notre condition, afin de rouvrir le chemin de la vie divine. Je ne sais pas si ça vous a déjà frappé, je pensais à ça l'autre jour. Quelle est une différence fondamentale entre l'attitude du Christ vis-à-vis de la souffrance et l'attitude du Bouddha? Eh bien, le Bouddha va parler de la souffrance et va essayer d'aller trouver la racine de la souffrance et il va expliciter le désir, l'attachement, etc. et va donner à l'être humain une méthode pour essayer de se détacher de cette souffrance et de ne plus être broyé par la souffrance. Contrairement au Christ qui ne parle pas de la souffrance, il entre dans la souffrance et lui-même souffre jusqu'au martyr sur la croix. Et Origène nous rappelle que c'est vraiment par compassion pour le genre humain que le Verbe divin descend dans notre vie. Le Seigneur descendit sur terre par compassion pour le genre humain. Il a patiemment éprouvé nos souffrances avant de souffrir la croix, et prendre notre chair. Car s'il n'avait pas souffert auparavant, il ne serait pas venu partager la vie humaine. D'abord, il a souffert, puis il est descendu et s'est manifesté. Et quelle est cette passion qu'il a éprouvée pour nous? C'est la passion de l'amour, écrit Origène. Cette passion amoureuse de Dieu pour l'homme, le Christ va le conduire jusqu'à son terme, son point culminant, en étendant les bras sur la croix, comme nous venons de le chanter. Sur la colline du Golgotha, il donne sa vie pour le salut des hommes, par compassion pour nous. Certains ont écrit que le Premier Testament était centré sur le pardon divin, ce qui n'est pas faux du tout, et que le Nouveau le serait sur le pardon humain. Et là, je pense que ce n'est pas tout à fait juste. Il me paraît plus juste de dire que le Nouveau Testament est centré sur le pardon divino-humain. Puisque le Verbe incarné, le Verbe divin, devient homme. Et qu'il prescrit à ses disciples de pardonner sans limite comme le Père lui-même pardonne. Alors nous allons envisager le pardon dans la vie du Verbe incarné sous plusieurs angles complémentaires. Tout d'abord, celui de son enseignement, ensuite celui de ses actes, de sa manière de vivre, ensuite celui de la transmission, du pouvoir de pardonner, et enfin celui, mais ce sera plus bref, même si c'est finalement le plus important, celui plus théologique du salut. La première approche, c'est que le Christ nous enseigne le pardon. À de très nombreuses reprises, sous de différentes formes, il parle, Jésus parle du pardon, et il en fait un véritable commandement, comme je vous le disais tout à l'heure. Ce n'est plus une option, ce n'est pas un simple conseil, c'est un commandement central. Et comme je le rappelais déjà tout à l'heure, il va l'insérer au cœur de cette prière unique qu'il nous transmet, le Notre Père. Et Jésus rappelle que le pardon est d'origine divine. Le pardon n'est pas spontanément humain, il est divin. Il nous dira, par exemple, « Soyez miséricordieux comme votre Père céleste est miséricordieux. » Et il insère ce commandement au cœur des béatitudes. « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. » Il va illustrer ce commandement fondamental de multiples manières, et notamment dans cette magnifique parabole, sans doute une des plus belles, du Fils prodigue. Je ne la commenterai pas, elle est bien connue, mais c'est vraiment la parabole du pardon et de la miséricorde, qui nous rappelle que Dieu est un Père qui sans cesse, sans se lasser, attend notre retour. Nous sommes des enfants perdus, et la joie du Père est de pardonner sans tenir aucun compte de la faute du Fils qui revient vers lui et qui l'étreint avec tendresse. Trouvons ça dans Luc chapitre 15. Autre manifestation verbale du pardon par le Christ, quand Pierre l'interroge en Matthieu 18 sur le fait « Est-ce qu'il faut pardonner jusqu'à 7 fois ?» Et 7 fois, ce n'est pas rien. Imaginez une situation, nous y viendrons tout à l'heure, où vous avez vécu quelque chose de très difficile avec quelqu'un et que cette situation, vous pardonnez une fois, vous pardonnez une seconde fois, une troisième fois, toujours la même personne, quatrième fois, cinquième fois, sixième fois, septième fois. 7, c'est un chiffre de plénitude dans la Bible. Donc c'est pratiquement l'infini. Et le Christ lui répond, non pas 7 fois, c'est pas assez, jusqu'à 70 fois, 7 fois, c'est-à-dire 490 fois. Imaginons toujours la même situation d'une personne qui vous cause un tort récurrent, mettons un voisin qui grippe votre voiture, qui crève vos pneus, qui coupe vos arbres, et vous allez lui pardonner 490 fois. Voilà le pardon divin. Voilà cette limite illimitée. Et en disant cette fois, dans l'esprit des Hébreux, des apôtres et du Christ, cette fois c'est le chiffre de l'année sabbatique. Vous savez que tous les 7 ans revient dans le peuple hébreu une année sabbatique où on remet les dettes à ses débiteurs. C'est ce rappel du pardon qui doit être exercé de manière illimitée, indéfinie. Et cette réponse du Christ à Pierre est le miroir inversé d'un autre passage que l'on trouve dans le livre de l'Exode. Vous ne savez pas, je ne sais pas si vous connaissez la Mecque, pas la Mecque, la ville de la Mecque, mais la Mecque qui est un des fils, un des descendants de Caïn. Et la Mecque a cette phrase terrible que Caïn sera vengé 7 fois, mais la Mecque, lui, qui le dit, sera vengé 70 fois. Ou 77 fois. C'est une spirale de la vengeance qui est indéfinie. Eh bien, le Christ, prenant le contre-pied de l'exclamation de la Mecque, dit « Non, tu pardonneras jusqu'à 70 fois, 7 fois. Tu ne te vengeras pas. » Autre illustration de ce pardon indéfini, ou infini plutôt, il va l'illustrer dans différentes phrases, dans différentes recommandations, dans différents commandements qu'il nous donne et qui paraissent mais complètement fous, insensés aux yeux du monde. Moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, donne lui aussi ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1 000, fais-en 2 avec lui. Aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Prêtez sans rien espérer. Voilà les commandements du Christ qui nous, c'est le moins qu'on puisse dire, nous décentrent totalement de nous-mêmes, de nos intérêts, de notre amour propre blessé, de notre raison raisonnable. C'est totalement fou, c'est totalement déraisonnable. La conduite qu'il nous recommande. Et ces propos, tout à fait surprenants, en ont choqué et continuent à en choquer plus d'un, et on le comprend. Car nos rapports, comme je le disais en commençant, nos rapports humains sont centrés, sont gouvernés, de manière la plus souvent implicite, par une réciprocité quasi obligée. Je te donne si tu me donnes, je te pardonne si tu me pardonnes, je t'aime si tu m'aimes. Or, ce que le Christ inscrit en nous, c'est une gratuité totale, totalement désintéressée, entièrement détachée de l'attente par rapport à l'autre, c'est-à-dire d'un don en retour. Nous n'attendons rien en retour, si nous suivons le Christ. Le Christ nous enseigne donc à imiter Dieu lui-même, dans un amour total, désintéressé. Et quand je dis imiter, c'est un mot certainement trop banal. Car ce dont il s'agit, c'est de ressentir, de vibrer, d'aimer comme Dieu lui-même, dont nous sommes l'image, dont nous sommes aussi, nous dit saint Paul, le temple, il habite en nous, dont nous sommes, le dit le Christ, les enfants. Je ne vous appelle plus amis, je vous appelle frères. Cette attitude du don parfait, c'est-à-dire du pardon, paraît dépasser nos capacités humaines. Et pourtant, il semblerait que le Christ, par ses paroles, mette en l'homme une confiance illimitée, et donc le croit capable, nous croit capable, d'un tel amour désintéressé. Lita Basset écrit « Il est bon d'entendre, au travers des paroles de notre Père, que Jésus lui-même ne doutait pas un instant de la capacité des hommes à pardonner. » La prière, donc le Notre Père, contient ce constat réjouissant, nous pardonnons régulièrement à ceux qui nous ont offensés. Voilà, je trouve, une prise de conscience stimulante à méditer car c'est vraiment bouleversant. Il ne s'agit pas simplement de pardonner, mais de nous transformer en profondeur par l'exercice du pardon. C'est-à-dire nous convertir arriver à cette nouvelle naissance dont parle le Christ à Nicodème et dont parle saint Paul quand il parle de l'homme nouveau, l'homme spirituel. Faire naître en nous l'homme nouveau, celui qui est à l'image de celui qui est devenu homme par amour pour nous. Comme écrit le père Alphonse, le pardon est désormais la nouvelle loi qui régit toute relation humaine. L'homme n'est vraiment homme que s'il devient Dieu. L'image de Dieu en l'homme est destinée à s'accomplir dans la ressemblance. Ressembler à Dieu, voilà la vraie naissance de l'homme. Tant que le pardon n'est pas le pain que nous mangeons tous les jours, nous restons des avortons. Nous végétons sur le plan animal, sans connaître la vie en plénitude. C'est pour accoucher l'homme à cette nouvelle naissance que le Christ est venu. Le pardon, don parfait sans limite, puisqu'il va jusqu'au pardon des ennemis, est le sommet de tout amour. Dans cet amour seulement, l'homme fait l'expérience de Dieu. Et donc, nous voyons que Jésus place le pardon au sommet de notre comportement, comme une attitude absolument incontournable, vitale et fructueuse. Et même la prière et l'offrande à Dieu n'a aucun sens sans le pardon. Il nous le rappelle de manière très explicite dans saint Matthieu, « Si tu présentes ton offrande à l'autel et que tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. » Ça nous rappelle ce qu'on trouve à de nombreuses reprises dans les prophètes, « Que m'importent vos sacrifices? Je hais vos sacrifices. Je déteste la fumée qui monte de vos holocaustes. Transforme d'abord ton cœur, et puis viens et offre-moi ton offrande. » Qui d'entre nous applique ce commandement d'aller d'abord se réconcilier? Eh bien, je constate, pas moi, hélas. Et pourtant, ne faut-il pas prendre ces paroles du Christ très au sérieux, comme nous le rappelle Jean Chrysostome, qui commence ce passage de la manière suivante. Qu'aucun de ceux qui ont un ennemi n'approche de la sainte table et ne reçoit le corps du Seigneur. Ce n'est pas moi qui parle ainsi, c'est le Seigneur, pour te réconcilier avec son Père. Il n'a pas refusé d'être immolé ni de répandre son sang. Et toi, pour te réconcilier avec ton frère, tu ne veux même pas dire un mot et prendre l'initiative d'aller le trouver. Alors que Dieu ne se tient pas pour offenser, devoir laisser de côté le don qu'on allait lui offrir, toi, tu t'estimerais déshonoré de faire le premier pas pour te réconcilier avec ton frère. La deuxième approche, c'est que non seulement le Christ parle du pardon, mais il incarne le pardon lui-même. Il est, si je puis dire, le pardon en acte. Le pardon total, absolu, infini, constant. Comme l'écrit Maxime Enger, ce qui est important dans les nombreux miracles et guérisons que le Christ opère, c'est moins la puissance divine qu'il révèle, ce qui n'est déjà pas si mal, mais l'extraordinaire compassion qui les inspire, les miracles et les guérisons. Et nous voyons cette compassion du Christ à l'œuvre dans la moindre de ses rencontres, dans tous ses comportements, y compris dans les polémiques qu'il oppose aux pharisiens. Et pourquoi ces polémiques? Parce que les pharisiens, justement, à part quelques exceptions comme Nicodème ou quelques autres, ferment leur cœur, durcissent, et plutôt que le pardon, loi intérieure, la loi nouvelle, font passer la loi extérieure. Et donc ils ne prêchent pas simplement le pardon, ils le pratiquent sans relâche, ils le manifestent, et on voit le Christ se pencher avec tendresse vers tous les êtres blessés qu'il rencontre et qu'il accueille. Par exemple, Zachée, Marie-Madeleine, la femme adultère, Matthieu, le collecteur d'impôts. Et il pardonne. Pourquoi leur pardonne-t-il à eux plutôt qu'aux pharisiens? Parce qu'eux sont capables de recevoir le pardon. Parce qu'ils sentent leur faiblesse, ils la reconnaissent, et ils n'ont qu'un souci, qu'un souhait, qu'un désir, c'est de se convertir, de se laisser toucher par l'amour de Christ. Alors que d'autres, plus nombreux, refusent sa compassion et endurcissent leur cœur. Jean Monbourquette, dont je vous ai recommandé le livre, nous écrit « L'Évangile nous enseigne que les convertis, ceux qui se retournent, sont ceux qui se sont laissés aimer, malgré leur pauvreté, je dirais presque grâce à leur pauvreté, tandis que les endurcis sont ceux qui ont refusé l'amour et le pardon. » Et Jésus insiste à de nombreuses reprises, « Je ne suis pas sauvé, je ne suis pas venu sauver les justes, mais les pécheurs, c'est-à-dire ceux qui ont conscience de leur besoin de guérison et de leur besoin de pardon. » Ainsi, par exemple, dans l'épisode extraordinairement touchant, je trouve bouleversant, de la femme adultère. Vous vous rappelez qu'on amène une femme surprise en adultère et que la loi de Moïse commande de la lapider. Et pour mettre Jésus en difficulté, les pharisiens, les scribes, lui posent cette question, que faut-il faire? Et Jésus ne répond rien pendant un certain temps, il dessine sur la terre. C'est un épisode qui m'a toujours profondément touché et j'aurais voulu être là et voir ce que Jésus dessinait sur la terre. On peut tout imaginer, cette main divino-humaine qui trace des signes sur notre terre, sur notre astre. Et Jésus, évidemment, retourne la question avec une justesse confondante, que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Et puis, il dit à la femme, « Où sont-ils, Seigneur ? Où sont-ils ? » Et elle dit, « Seigneur, ils sont tous partis. » À commencer par les plus âgés qui ont l'expérience. Et qui savent que, effectivement, le péché et le pardon, ce n'est pas une chose facile. Et alors, Jésus lui donne le pardon divin, en lui disant, en lui recommandant d'entrer dans une autre intelligence du mystère. Il lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Jean, chapitre 8. Et aussi dans l'épisode du paralytique, vous savez, cet épisode haut en couleur, où la maison est bondée et on ne parvient pas à entrer ce pauvre malade sur son grabat. Et donc ils font un trou dans la toiture pour descendre le malade. Ils sont sérieusement motivés et ils le présentent au Christ. Et le Christ va non pas le guérir d'abord, mais lui pardonner ses péchés, montrant bien à quel point le pardon, c'est-à-dire l'enfermement intérieur, le poison intérieur, est lié à la délivrance non seulement psychologique, mais physique. Et donc il va lui pardonner ses péchés, et ça va offusquer les gens présents en disant, mais Dieu seul peut pardonner. Et le Christ va ajouter, après avoir pardonné, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur terre le pouvoir de pardonner, je te l'ordonne, lève-toi, prends ton grabat et va dans ta maison. Il y aura un très long commentaire à faire sur cette phrase. Lève-toi, ce n'est pas simplement la guérison physique, c'est une guérison psychique et spirituelle. Prends ton grabat, prends tes vieilles affaires, tes vieilles loques, et rentre chez toi, va dans ta maison, qui est aussi ta maison intérieure. Comme il dira, quand vous priez, entrez dans votre demeure intérieure. Et aussi, dans une autre scène, on voit le pardon en action quand Jésus est invité chez un pharisien et qu'une prostituée que la tradition identifie comme étant Marie-Madeleine lui essuie les pieds, les baignant de ses larmes et les oignant de parfum, ce que nous chantons à la Semaine Sainte. Alors le Christ lui pardonne ses péchés en disant cette phrase magnifique, « Ses nombreux péchés lui ont été pardonnés car elle a beaucoup aimé. » Et le Christ nous montre ici à quel point l'amour que nous avons pour les autres est lié au pardon que nous pouvons donner et recevoir. Ta foi t'a sauvé, va en paix. Et aussi dans cet épisode touchant, lorsqu'il aperçoit Zachée, qui était petit et qui est monté dans un arbre pour le voir, et qu'il l'aperçoit et que Zachée l'invite dans sa maison, à nouveau la maison physique et la maison spirituelle, et que le Christ va dire, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Épisode aussi profondément bouleversant, c'est quand le Christ, mis à mort lui-même de manière totalement injuste, ignominieuse comme un esclave sur la croix, demande à son Père de pardonner à ses bourreaux. Parce que, dit-il, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et nous voyons aussi, et ça nous introduit à l'aspect suivant, théologique, que Jésus met le pardon des péchés au centre même du sacrement qu'il institue, c'est-à-dire le sacrement de l'Eucharistie. Je ne sais pas si ça vous a déjà frappé, mais à la Sainte Cène, il dit « Ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui est répandu pour plusieurs. » Il pourrait s'arrêter là. Et il ajoute « Pour la rémission des péchés. » Et c'est exactement les paroles que le prêtre nous rappelle avant et pendant la communion. « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, c'est-à-dire qui pardonne. » Et aussi, lorsqu'il donne le pain et le vin, communie au corps et au sang de notre Seigneur Jésus-Christ pour la rémission des péchés et la vie éternelle. Troisième approche du pardon dans le Nouveau Testament, c'est que le Christ ne se contente pas de pardonner, il va, chose tout à fait étonnante, transmettre le pouvoir de pardonner aux hommes. Le Christ ressuscité souffle sur ses apôtres à sa première apparition, vous vous souvenez? Il leur communique l'Esprit Saint et leur donne le pouvoir tout à fait inouï de pardonner les péchés, non seulement de manière humaine, mais de manière divine. C'est le pardon au nom de Dieu lui-même. Il dit dans Saint Jean, « Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Je vous le dis en vérité dans Matthieu 18, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. » Et ce n'est pas, comme je vous le dis, j'insiste là-dessus, ce n'est pas un pardon humain dont il transmet le pouvoir, mais c'est le pardon de Dieu lui-même, c'est-à-dire l'effacement total des péchés, au nom de Dieu. Et un tel pouvoir est tout à fait blasphématoire pour la mentalité juive, car seul, et on le voit dans les évangiles, plusieurs fois des pharisiens, des scribes, des lévites, disent au Christ, mais Dieu seul a le pouvoir de pardonner les péchés. Eh bien, ce pouvoir, Dieu le transmet aux hommes. C'est une confiance, je dirais, illimitée que le Christ fait aux apôtres et qui est aussi difficile à comprendre, peut-être même à accepter, que celle que Dieu fait à l'homme en lui donnant la liberté. Vous vous rappelez, on a beaucoup parlé de la liberté quand nous avons commenté cette demande que ta volonté soit faite. Et la liberté est quelque chose d'extrêmement merveilleux, c'est un signe d'amour absolu, que Dieu nous ait donné cette liberté, et pourtant nous acceptons dans le fond de nous-mêmes parfois très difficilement d'avoir reçu cette liberté, parce que cette liberté nous éloigne de lui quand elle est mal exercée. Et c'est toute l'histoire humaine et mon histoire personnelle en témoigne d'ailleurs. Eh bien, est-ce que nous acceptons de pardonner, que ce don du pardon divin soit transmis à des hommes faillibles? Et d'ailleurs le prêtre qui a reçu le pouvoir par la succession apostolique et par les évêques, dit « Moi, prêtre indigne », lorsqu'il demande le pardon des péchés avant le canon eucharistique. Cette transmission est véritablement révolutionnaire, parce que le Christ identifie l'homme à Dieu lui-même dans l'exercice du pardon. On y est habitué, ça passe comme ça, comme l'eau sur les plumes d'un canard, mais c'est incroyable, inouï, comme dirait Alphonse. Comme Dieu est pardon, c'est-à-dire don total, l'homme restauré dans l'image divine devient aussi pardon lorsqu'il pardonne au nom de Dieu. Et je crois que nous n'avons plus conscience, en tout cas c'est mon cas, je dois bien l'avouer, de l'importance et de la force agissante du sacrement de pardon que nous recevons dans la confession, qu'on appelle aussi le sacrement de la réconciliation. Parce que toute barrière entre Dieu et l'homme est anéantie, disparaît, par le sacrement, dans le sacrement du pardon, quand nous recevons le pardon, non pas du prêtre, mais de Dieu lui-même, à travers le sacrement du pardon. Et d'ailleurs, ce pardon est répété dans tous les grands sacrements de l'Église, au moment du baptême, au moment de la confirmation, au moment de l'Eucharistie, je viens de le rappeler, et évidemment, dans le sacrement de la confession. Quatrième et dernière approche du pardon à travers le Nouveau Testament, et non des moindres, c'est que le salut, c'est-à-dire ici synonyme de pardon, nous est donné à travers le Christ, par le pardon. Il n'est plus en vogue à notre époque qui est déconnectée de la sève qui irrigue les évangiles en profondeur, de parler du salut apporté par le Christ. Si vous en parlez autour de vous, on dira, comme on disait à Saint Paul à l'Aéropage, tu nous parleras là-dessus une autre fois. Aujourd'hui, on a mieux à faire que ça. Il n'est plus en vogue de parler du salut du Christ et encore moins de lier ce salut au sang versé par le Christ. Ça m'a frappé l'autre jour, nous accueillons un prêtre archi-sympathique, un prêtre catholique, dans notre habitat d'Angelbert. Et ce qui m'a frappé, c'est non seulement la bonté qui émanait de lui, mais aussi le fait qu'il dise, l'Eucharistie, on va quand même plus dire que c'est un sacrifice. Ce n'est plus, je ne sais pas si ça t'a frappé, Roselyne et François, l'Eucharistie, pour lui, ce n'est plus un sacrifice, c'est-à-dire cette vieille mentalité sacrificielle liée au sang versé, on n'en est plus là, mes frères et sœurs. Il n'a pas dit ça comme ça, mais il l'a dit, et je me suis gardé de réagir, on était dans une ambiance détendue et sympathique, ce n'était pas le moment de lancer un débat théologique, mais c'est le centre même de l'Épître aux Hébreux. Si vous lisez l'Épître aux Hébreux, tout est centré sur le sacrifice du Christ, sur son sang, le sang de l'agneau répandu, qu'il répand une fois pour toutes en entrant dans le sanctuaire. Et ce sang répandu une fois pour toutes nous délivre totalement de notre péché, de notre condition mortelle. Alors qu'avant, le sacrifice était répété de nombreuses reprises dans le temple. Vous savez, le temple de Jérusalem, c'est, si je puis dire, une immense boucherie. C'était un sacrifice perpétuel. Et le sang coulait à flot, le sang des boucs, le sang des agneaux, des taureaux, etc. Eh bien, l'Épître aux Hébreux nous montre que tous ces sacrifices sanglants sont devenus totalement inutiles parce que le Christ, une fois pour toutes, a donné son sang en nous pardonnant sur la croix. Et nous trouvons ça de manière très développée chez Saint Jean, Saint Paul, et aussi, comme je viens de vous le dire, dans l'Épître aux Hébreux, qui n'est pas Saint Paul, comme on l'annonce souvent, mais d'un auteur anonyme, c'est-à-dire non identifié à ce jour. Voici quelques citations qui nous le rappellent, mais je ne vais pas insister là-dessus. « Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. » Saint Jean qui écrit ça. « Vous avez été rachetés par le sang précieux du Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. » Là, c'est Saint Pierre, dans son épître première. « Nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, nous dit Saint Paul. » Et donc, s'il n'est pas toujours explicitement en question de pardon dans ces textes que vous trouverez dans les citations, il est évident que les termes de rédemption, de rachat, de salut, de sanctification ont ici le sens de salut définitif par le pardon des péchés apportés et pratiqués par le Christ. La mort sanglante du Christ sur la croix nous introduit dans le royaume de l'amour et du pardon divin. Quittons maintenant la figure, la personne du Christ, enfin, quoi qu'il soit toujours présent au milieu de nous, bien sûr, pour nous intéresser à quelque chose de plus ambigu, de plus difficile dans la formulation même du Notre Père, comme je vous l'ai déjà évoqué tout à l'heure. Le verset de Notre Père dit « Remets-nous nos dettes comme nous les avons remis à nos débiteurs ». Ça, c'est Saint Matthieu. Et Saint Luc, c'est encore plus fort, « Remets-nous nos péchés car nous les avons remis à nos débiteurs » ou à ceux qui nous ont fait du tort. Et donc, si nous lisons cette phrase de manière littérale, on pourrait penser que le pardon humain est antérieur au pardon divin. et qu'il le conditionne. Ce serait une sorte de donnant-donnant. Je pardonne, alors tu me pardonnes. De récompense à notre mérite d'avoir pardonné. Et pour pousser encore les choses un peu plus loin, cette première impression, cette lecture littérale, semble renforcée par d'autres paroles de Christ. Par exemple, « Ne jugez point, et vous ne serez pas jugés. Donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée, qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi vous-même. » Donc on peut penser à première vue qu'il n'est pas question de pardon dans ces phrases du Christ, mais que l'idée de réciprocité est bien présente. Si vous jugez, vous serez jugé. Cela signifie, si l'on retourne la proposition de manière inverse, si vous ne jugez pas et si vous pardonnez, à ce moment-là, vous ne serez pas jugé et vous serez pardonné vous-même. Et enfonçons encore le clou un peu plus loin, si nous prenons le commentaire que fait le Christ lui-même de la demande, à la fois dans saint Marc et dans saint Matthieu, le Christ nous déclare, quand vous vous tenez en prière, pardonnez si vous avez quelque chose contre quelqu'un, afin que votre Père du ciel vous pardonne vos offenses. Là, on se dit, là, il n'y a plus de doute. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, dans saint Matthieu, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus. Ah là, on a plein de dents. Ça, c'est vraiment dur à encaisser quand nous prenons conscience de notre difficulté, sinon parfois incapacité à pardonner. Est-ce que le pardon divin serait vraiment conditionné par le pardon humain? Comme on peut dire, et c'est le cas de le dire, la messe est dite. Eh bien non, pas du tout. La messe n'est pas dite, en tout cas pas dans ce sens-là. Notre pardon ne doit pas nécessairement précéder, être antérieur au pardon divin. Pourquoi? Pour deux raisons principales. D'abord, il est tout à fait choquant de penser que Dieu ne pardonnerait que si nous pardonnons préalablement, et dans la mesure où nous sommes capables de pardonner. Cela nous invoque la très mauvaise théologie des mérites qui a eu cours pendant des siècles et des siècles et qui a fait tant de dégâts. Si nous pardonnons, nous sommes récompensés par Dieu qui nous pardonne. Mais attention, si nous ne pardonnons pas, nous sommes punis et privés du pardon divin. C'est difficile à avaler, non? Ensuite, deuxième raison, tous les auteurs spirituels chrétiens sont unanimes pour affirmer, comme la Bible, que le pardon divin est totalement premier et totalement gratuit. Nous avons dit, et je le répète, l'être de Dieu est pardon. Dieu ne peut faire autrement que pardonner, puisqu'il est don total, amour total. C'est exactement comme le soleil qui ne peut s'empêcher de rayonner. Dieu ne pourrait retenir son pardon. Sauf, nous verrons qu'il y a quand même une petite condition, mais qui dépend de nous et pas de lui. Alors comment pourrait-il attendre que nous pardonnions pour voir si éventuellement il peut à son tour nous pardonner? Comment pourrait-il refuser son pardon si nous nous révélons incapables de pardonner, ce qui est parfois notre cas? Ceux qui croient, c'est une citation de Jean Montbourquesque, ceux qui croient qu'ils doivent nécessairement faire un geste de pardon avant de pouvoir être eux-mêmes pardonnés par Dieu, oublient que le pardon de Dieu n'est pas conditionné par les pauvres pardons humains. Quelle image de Dieu se font-ils? Celle d'un être calculateur et mercantile, soumis à la loi du donnant-donnant? Du concept du pardon gratuit de Dieu, on aurait peu à peu glissé vers celui du pardon récompense à nos pardons. Dieu mettrait ainsi des limites à son amour et cesserait de prendre l'initiative du pardon pour se mettre à la remorque des pauvres pardons humains. Ce serait assez choquant, non? Alors comment concilier l'image de ce Dieu, un Dieu mesquin, s'il conditionne son pardon au nôtre, avec les paroles du Verbe qui nous révèle que Dieu est un Père dont la joie est de pardonner, et qui envoie son Fils dans le monde pour le sauver et non pas pour le juger, afin que nul ne se perde, nous dit-il dans la parabole de la brebis égarée. Et voici quelques commentaires de Jean Carmignac, Boris Bobrinsky et puis d'un moine de l'Église d'Orient à ce propos. Il parle de la conjonction « comme nous pardonnons ». La conjonction « comme » n'implique pas ici une causalité, mais une simple similitude. Elle ne saurait exprimer un droit au pardon divin acquis par le mérite de notre pardon humain. Maintenant, Bobrinsky, en réalité, tout le contexte de la Bible nous pousse à ne pas faire du pardon mutuel entre les hommes la condition du pardon de Dieu, mais bien au contraire, à en voir la conséquence nécessaire. Le pardon de Dieu est premier. Partout, nous retrouvons ce fait fondamental de la priorité, de la primauté du pardon de Dieu. Ce pardon de Dieu est inconditionnel. Car Dieu nous a aimés alors que nous étions encore pécheurs, jusqu'à mourir pour nous, écrit saint Paul dans l'Épître aux Romains. Et le moine de l'Église d'Orient, dans son commentaire du Notre Père, dit « Dans la mesure où nous pardonnons, il n'y a aucune commune mesure entre la générosité divine et nos propres pardons, toujours limités et imparfaits. » Donc si nous pensons qu'il faut d'abord pardonner, nous faisons vraiment fausse route. Mais alors comment comprendre cette phrase, ce lien étroit que le Christ établit entre le pardon divin et le pardon humain, puisqu'il y en a nécessairement. Eh bien pour cela, je pense qu'il faut revenir à l'essence même du pardon. Je le répète à nouveau, le pardon signifie don parfait, don total, gratuité. Et donc pour qu'un être humain blessé et traumatisé par une offense, par un manque d'amour qui lui a fait mal, ou même parfois qui nous laisse tout à fait exsangue, pour que nous puissions pardonner, il faut une conversion profonde de notre être, un retournement, une métanoïa et un changement de niveau de conscience dont nous décrirons dans le troisième exposé les étapes. Il faut donc, pour que nous retournions, que nous recevions en nous la grâce, la puissance de la grâce. Et seule la puissance de la grâce, avec notre aide, bien entendu, notre participation, peut nous transformer radicalement, nous ouvrir le cœur, nous ouvrir l'esprit. Et donc nous voyons par là que le processus du pardon humain n'est pas simplement psychologique, une thérapie de l'âme, bien que c'en soit une, comme nous l'avons dit tout à l'heure. Mais c'est un véritable chemin spirituel que le pardon. Un chemin qui nous ouvre à la vie trinitaire. Et ce chemin est impossible sans la prière et sans l'aide de Dieu. Je cite ici le père Philippe Dautet dans l'article que je vous ai photocopié. Le pardon nous est enseigné par le Christ pour entrer dans la vie et rompre avec la mort. Le pardon enseigné par Jésus n'est pas psychologique. Il dépasse les forces humaines, car qui peut par ses propres forces aimer ses ennemis? Sans le secours de la grâce, cela semble impossible. Ainsi, il apparaît d'emblée que l'on ne peut se disposer au pardon qu'en entrant dans la prière. Le pardon s'exerce en bénissant. Bénissez ceux qui vous maudissent, et en priant. Priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Pardonner signifie que l'on croit plus à la prière qu'en ses propres forces. Pardonner signifie que l'on croit plus en la prière qu'en ses propres forces, et plus à l'action divine qu'aux capacités humaines. Pardonner, c'est faire de chaque blessure un motif de prière. Voilà une phrase à inscrire en grand, à méditer. Pardonner, c'est faire de chaque blessure un motif de prière. Pardonner, c'est rassembler l'ennemi, les ennemis et moi-même dans la même prière. Ainsi, le pardon se fonde sur l'esprit de la métanoïa, de conversion intérieure, par un passage du « tout est dû » au « tout est don ». Encore une phrase magnifique. Souvent, on pense « tout m'est dû », eh bien non, « tout est don ». Se convertir, c'est se mettre sous le regard du Christ qui vient m'affranchir de la logique de mort et m'aide à faire de chaque épreuve une occasion de sanctification. En lisant ce texte et celui du père Alphonse que je vous en épargne la lecture, vous le lirez vous-même si vous le souhaitez, On prend conscience d'abord que le pardon n'est pas un luxe, mais une nécessité vitale, c'est-à-dire qui touche à la vie même. Deuxièmement, qu'il nous transforme en profondeur, en nous ouvrant d'une part à la grâce divine et d'autre part aux relations, tant avec nous-mêmes, parce que le pardon est une plongée en nous-mêmes, et avec nos semblables, et avec Dieu. Et troisièmement, que le pardon favorise en nous l'éclosion de cette merveille, cette fleur merveilleuse que nous appelons dans notre tradition la personne, que nous appelons en théologie l'hypostase. Et cette personne que nous avons en nous, que nous avons à trouver, à réaliser, à épanouir, elle est relation, ouverture, liberté, compassion. Et en possession maintenant de ces éléments essentiels, nous pouvons revenir à notre question de départ, celle du lien étroit qui unit le pardon divin au pardon humain. Nous pouvons, je pense, réconcilier les deux affirmations apparemment antinomiques et contradictoires que nous avons rencontrées, c'est-à-dire le caractère total, premier et gratuit du pardon divin, avec la phrase du Notre Père qui paraît à première vue conditionner le pardon divin à notre pardon humain, en affirmant que finalement tout gravite, tout se joue autour de l'ouverture du cœur que provoque en nous le pardon, qu'il soit humain, c'est-à-dire le pardon que nous pouvons donner et recevoir de l'autre, et le pardon divin que nous pouvons demander et recevoir. Tout gravite autour de l'ouverture du cœur. En effet, si mon cœur est ouvert à la compassion vis-à-vis de mes frères et même de mes ennemis, c'est qu'il est aussi à la grâce divine. Et s'il est ouvert à la grâce divine et la laisse agir en moi, il m'ouvre aussi au pardon du frère. C'est comme des vases communicants. Rachel Gutmann, dans son entretien avec Alphonse et le patriarche d'Alexandrie, je ne sais plus comment il s'appelait. Merci, Shenouda. Il dit ceci: le pardon que nous offrons à ceux qui nous ont blessés, nous l'avons nous-mêmes reçu de Dieu et nous le transmettons. Vous voyez, c'est un mouvement circulaire, le pardon. Et Jean-Yves Leloup, il s'agit de s'ouvrir à ce qui est plus grand et plus aimant que nous. Et on comprend alors que celui qui pardonne est lui-même pardonné. Le don de la vie peut à nouveau circuler en lui, et par-delà le don, pardon, au-delà du don, la présence de l'être qui se donne. Et donc, c'est le même courant d'énergie bienveillante, compatissante, miséricordieuse, qui nous traverse à la fois de manière verticale, par la réception de la grâce et du pardon divin, et horizontale, par le pardon des frères et de nous-mêmes. Comme, et nous l'avons déjà rencontré souvent ça, comme les deux branches de la croix qui se rejoignent au centre de notre cœur. Rappelons-nous cette belle phrase du Christ que nous avons lue tout à l'heure, qui pardonne à la prostituée: il lui sera beaucoup pardonné car elle a beaucoup aimé. C'est le même mouvement d'amour et de pardon. Inversement, l'incapacité de pardonner nous ferme, nous sclérose, nous maintient dans un état de crispation, de fossilisation du cœur, d'autisme spirituel, qui fait obstacle en nous au passage de la grâce. Si je peux employer une image médicale un peu triviale, c'est comme du cholestérol, mais du mauvais cholestérol spirituel, qui bouche nos artères spirituelles du cœur, qui les encrasse. Et donc il y a blocage, obstruction, bouchon, sur les deux plans de notre être, à la fois celui qui donne, qui est capable de donner le pardon, et celui qui est capable de le recevoir. En langage un peu plus théologique, enfin on est quand même en plein dans la théologie là, mais sur un plan légèrement différent, le père Bobrinskoy écrit que le pardon divin a deux aspects. Ça rejoint ce que nous venons de dire, mais de manière un peu différente. Le premier aspect, c'est qu'il est définitif, le pardon divin. Il est gratuit. et l'autre, il semble conditionné, mais non pas conditionné par le fait que nous ayons mérité le pardon divin, mais par notre capacité à recevoir le pardon et à le réfracter comme un miroir qui renvoie la lumière. Il écrit ceci. Il y a deux degrés dans le pardon de Dieu. Le premier degré est le degré universel, absolu, intemporel, permanent, pour tous les temps, pour tous les lieux. Dieu nous a sauvés une fois pour toutes. Ce pardon de Dieu est inconditionnel, car Dieu nous a aimés alors que nous étions encore pécheurs, jusqu'à mourir pour nous. Le pardon nous est donné, et nous n'avons qu'à, entre guillemets, entrer dedans. Et c'est le deuxième degré du pardon, nous sommes appelés à être les collaborateurs de cette œuvre de Dieu par l'action de l'Esprit-Saint, en assumant de notre côté ce mystère. Et lorsque nous rejetons nos frères, nous rejetons par là même le pardon de Dieu. Je reviens sur cette phrase que je viens de lire. Le pardon divin nous est donné et nous n'avons qu'à entrer dedans. C'est exactement comme si le soleil brillait à l'extérieur et que nous restons enfermés dans une chambre noire. Nous pouvons rester enfermés, nous pouvons rester fossilisés sur notre abcès intérieur, mais nous pouvons aussi ouvrir nos portes, notre fenêtre et sortir et bénéficier des rayons du soleil. Eh bien, c'est exactement ça. Le pardon divin rayonne comme un soleil et nous sommes invités à y entrer, à le rencontrer, à l'accepter, à entrer dedans. Et cette réalité nous introduit à un autre aspect extrêmement important de la réception du pardon divin, réalité qui est invoquée de manière constante dans la tradition biblique et dans la tradition chrétienne, et c'est celle du repentir. Il s'agit d'une attitude évidemment essentielle, on en parle tout le temps, et c'est souvent mal compris et mal vécu. Repentir, allez parler de ça à vos voisins et même à vos amis. Le repentir, ça a une connotation tellement lourde, tellement morale et désagréable que tout le monde va dire, vous parlerez de ça une autre fois, comme je le disais tout à l'heure. Et pourtant, c'est une attitude essentielle. Il est évident qu'il ne s'agit pas, il ne suffit pas plutôt de penser, ah mon Dieu, Dieu est amour, miséricorde, compassion, il pardonne sans limite aux pécheurs que je suis, donc allons-y gaiement. Cette miséricorde divine ne confère pas à l'homme, non pas un permis de pêche, mais un permis de péché, sans vergogne. Confiant dans les bienfaits sans limite du pardon divin qui nous est toujours offert, allons-y, puisque un jour ou l'autre, peut-être même aux dernières secondes sur notre lit de mort, il sera toujours temps de dire, ah maintenant Seigneur, j'ai bien vécu, mais pardonne-moi, j'ai peut-être un peu forcé la dose. Sans la conscience de mon état d'éloignement, de ma désorientation profonde, déboussolée, semblable à celle du fils prodigue, qui est saisi de remords et qui rentre en lui-même. Cette parabole est merveilleuse parce qu'elle dit tout en quelques mots. Vous rappelez que le fils est profondément malheureux et regrette la maison paternelle. Il est saisi de remords, donc de repentir, littéralement, et il rentre en lui-même. C'est exactement ça l'attitude du repentir. C'est un bouleversement, un retournement, un réveil. Il n'y a pas que le Bouddha qui parle de l'éveil. Le Christ en parle de manière constante. Eh bien, sans ce réveil, le pardon divin qui m'est offert ne peut pas agir en moi. Exactement comme la semence ne peut pas prendre racine sur du béton. Elle ne prendra racine que dans une terre, et une terre labourée. Et notre terre intérieure est labourée par la prise de conscience et le repentir. Le pardon est là, un pardon divin, comme une onde d'amour, mais je puis ne pas le recevoir parce que je n'en éprouve pas le besoin, le désir. Abba Shenouda disait ceci dans ce dialogue que j'ai cité, « Pour que Dieu puisse exercer sa miséricorde à mon égard, je dois reconnaître ma dette d'amour envers lui et entrer dans le repentir. Dès que je reconnais mon péché et que je me retourne, Metta noya. Le Père accourt, dit la parabole, et me prend dans ses bras. Mais Dieu respecte notre liberté. Il nous pardonne seulement et nous revenons à cette phrase que nous commentons, comme nous pardonnons, comme nous sommes capables de pardonner. Il nous pardonne seulement si nous le voulons. Donc la condition du pardon est le repentir. C'est le début d'une vie nouvelle avec Dieu. Au sens propre du terme, le repentir est un retournement. C'est l'enfant prodigue qui rentre en lui-même. Il retrouve la direction de l'intériorité et replonge son axe dans l'être, la source de vie. Le voilà de nouveau dans le face-à-face avec le Père duquel il se reçoit comme un fils. Mais peut-il y avoir de repentir fécond, véritable, sans que nous ressentions dans notre être profond, c'est-à-dire dans nos tripes, et je vous rappelle que les tripes, c'est la miséricorde, Rahamine, sans que nous ressentions dans les tripes la souffrance de la séparation d'avec Dieu, sans que nous côtoyions la solitude, l'enfer d'une solitude, d'où peut enfin jaillir ce cri blessé, Seigneur, aie pitié. Cet appel déchirant qui monte au cœur des psaumes et de la plupart de nos prières, comme nous les avons encore chantées il y a quelques instants. Thomas Merton écrit ceci, seul l'homme qui a affronté le désespoir sent vraiment à quel point il a besoin de miséricorde. Ceux qui n'en ont pas besoin ne la recherchent jamais. Mieux vaut trouver Dieu au seuil du désespoir que de risquer notre salut en vivant satisfait, sans avoir jamais senti le besoin d'être pardonné. Une vie sans problème peut être en réalité beaucoup plus désespérée que celle qui est toujours au bord du désespoir. Et vous avez constaté que la plupart des prières liturgiques ou individuelles dans la tradition chrétienne résonnent comme le chant des psaumes et émane d'un cœur repentant qui a besoin de secours. « Ô Dieu, viens à mon aide. Seigneur, hâte-toi de me secourir. Entends mon cri, sois attentif à l'accent de ma prière. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Kyrie eleison. Seigneur, envoie-moi ta grâce. J'ai besoin de toi. Je crie vers toi, Seigneur. » Cet état d'esprit extraordinaire peut sembler tout à fait ringard, poussiéreux, pathologique même aux yeux de certains. De ceux qui n'ont pas pris conscience, en réalité, de leur péché, c'est-à-dire de leur éloignement de Dieu, c'est-à-dire de l'état de brisure ontologique que nous portons en nous. Qu'est-ce que ce péché dont le simple nom agace et irrite la plupart de nos contemporains? Le père Bobrinsky le décrit de la manière suivante. La Bible nous présente le péché comme un état global de désordre, d'éloignement de Dieu, de brisure intérieure. La loi du péché s'étend sur toute la terre comme une gangrène depuis les origines. Elle pénètre à l'intérieur du cœur humain, dont elle brise l'intégrité et l'unité intérieure. L'homme est divisé, aliéné d'avec lui-même, d'avec Dieu, d'avec ses frères. Il devient ennemi de lui-même, de Dieu, de ses frères. Je peux devenir ennemi de moi-même, de mes frères et de Dieu. Le péché ancestral a introduit l'inimitié comme un germe d'hostilité dans les relations humaines. L'amitié et l'amour naturel, qu'ils soient d'ordre parental, fraternel, conjugal, cachent parfois des haines et des ressentiments tenaces derrière une façade souriante. Il ne s'agit évidemment pas de devenir masochiste, misérabiliste, larmoyant, en disant « Mon Dieu, je ne suis rien, je suis nul, je suis complètement une poussière de rien du tout », mais simplement de devenir conscient de nos manques d'amour vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis des autres. Et alors d'appeler Dieu à l'aide et de demander son pardon. Et quand nous avons la grâce de devenir conscients de notre état intérieur, alors nous pouvons nous tourner vers Dieu en criant « Seigneur, viens à mon aide ». Cette prise de conscience fondamentale de notre béance, de notre égarement intérieur, ne peut être qu'inspiré par l'Esprit Saint et ne peut surtout pas nous faire désespérer. Et c'est d'ailleurs le drame de Judas. C'est le pécheur qui désespère, qui doute de la miséricorde divine. Mais qu'est-ce que ça doit éveiller en nous ? Mais simplement, naturellement, le désir d'être guéri et pardonné par Dieu lui-même. Et Abba Shenouda, toujours lui, dit « Demandez pardon ». Qu'est-ce que c'est demander pardon ? Eh bien, c'est rien de moins que de vouloir participer à la vie divine elle-même. Demander pardon, c'est de vouloir participer à la vie divine. Alors, on peut en toute bonne foi se poser la question « Qu'est-ce que j'ai à me faire pardonner par Dieu ?» Finalement, je vis peut-être agréablement, sans faire de tort à mes voisins, sans faire de vagues, du moins volontairement. Je suis un homme, une femme responsable, qui aime ses enfants, son conjoint, ses parents, ses amis. De temps en temps, je signe une pétition pour la paix dans le monde, la pollution. Je verse même de l'argent pour les plus démunis, je m'engage, comme on dit, etc. Donc finalement, je ne suis pas trop mal. Je suis même plutôt bien, non ? Alors pourquoi demander pardon à Dieu, franchement ? Eh bien, c'est un état d'autosatisfaction qui est un leurre, parce qu'il anesthésie réellement notre vie spirituelle. Il ne s'agit évidemment pas de se sentir coupable, et on a de grandes difficultés avec la culpabilité, et certains disent, la tradition judéo-chrétienne nous transmet la culpabilité. Pourquoi est-ce qu'elle nous transmet la culpabilité ? Parce qu'elle était horriblement mal enseignée. On a fait de la profondeur de la morale. Et la tradition biblique et chrétienne a dégénéré en morale culpabilisante, c'est-à-dire infantilisante. Des générations de chrétiens ont subi cette moralisation à outrance et l'ont transmise à leurs enfants. Et ont déformé totalement le message du Christ. Il s'agit simplement de prendre conscience d'une seule chose, c'est de notre état de sommeil spirituel. Nous sommeillons, nous ronflons agréablement. Et nous sommes dans une sorte d'apathie du désir de Dieu, en oubliant que l'homme ne devient véritablement homme que s'il devient Dieu, c'est-à-dire s'il participe à la vie divine. Et comment participer autrement à la vie divine que par l'intermédiaire du pardon qui est Dieu lui-même. Et nous pouvons donc ainsi vivoter agréablement pendant de longues années, c'est mon cas, sans jamais tenter de scruter la profondeur de l'ombre qui m'habite et qui se tapit dans mon abîme. Et un jour peut-être, une grande épreuve, une maladie ou la mort d'un proche va me réveiller. Personnellement, j'ai commencé à m'éveiller le jour où j'ai dû être opéré. Je suis resté dans un couloir, dans une demi-anesthésie. Vous savez, on vous donne une dose avant l'anesthésie véritable, puis on vous emmène vers la salle d'opération, et vous attendez votre tour. Et j'étais là dans un couloir, et je me sentais au bord de la mort, à tort sans doute, mais psychologiquement, j'étais pratiquement dans la mort. Et je me suis dit, mais Marc, tu as vécu, je ne sais plus quel âge j'avais, 27, 28 ans, tu avais vécu 28 ans dans un état de sommeil spirituel total. Et là, je me suis dit, si je survis, alors je vais m'y mettre. Et c'était l'état déclencheur, et c'est ce qui se passe aussi dans les guerres. Vous savez que pendant les guerres, les églises se remplissent. Mais quand la guerre est passée, quand les épreuves sont passées, et quand tout va bien, entre guillemets, ou quoi, tout semble aller bien, ben alors on a tendance à se rendormir. Et à un moment où on se réveille vraiment, où on désire de tout notre être nous ouvrir à cette action de la grâce, à réveiller en nous ce désir de communier profondément avec Dieu et avec nos frères, alors nous pouvons demander et recevoir le pardon divin, comme une graine de vie qui n'attend que notre ouverture, c'est-à-dire le travail de notre terre intérieure. Et nous sommes ainsi invités à entrer dans le mystère du Christ qui devient pardon en nous. Pour clore ce chapitre qui peut rester ouvert à l'infini, et j'espère qu'il le restera durant ce temps de carême, il m'a paru utile de comparer le pardon divin au pardon humain, en rassemblant ce que nous avons cueilli jusqu'ici dans les champs que nous venons de traverser. D'abord, le pardon divin est premier. On ne le répétera jamais assez. Totalement gratuit et précédant absolument le pardon humain, comme je viens de le rappeler. Deuxièmement, le pardon divin a une portée éternelle, universelle, par le sacrifice définitif du Christ. Et le pardon divin s'identifie au salut même, comme je l'ai rappelé. Et le pardon divin a une double portée, comme le souligne Père Bobrinsky. D'une part, il est général, donné une fois pour toutes, total. Et d'autre part, il est aussi interpersonnel, car il suppose notre participation, notre réception, par le repentir, la prière et la volonté de se laisser toucher, transformer par la grâce. Ce n'est pas le cas du pardon dit humain. Le pardon humain est circonscrit à une sphère privée. Je pardonne à telle personne, je ne pardonne pas à l'humanité entière. Je peux pardonner d'ailleurs sans que ces personnes en aient conscience, ni se soient excusées, ni se soient repenties du mal qu'elles m'ont fait. Le pardon humain donc est ponctuel, donné à telle personne ou à tel groupe de personnes, dans telle circonstance, et le pardon humain doit être renouvelé, comme le dit le Christ, jusqu'à 70 fois, 7 fois. Le pardon divin est donné une fois pour toutes. Le pardon divin efface complètement les fautes, qui disparaissent totalement, comme si elles n'avaient jamais existé, comme le soulignait le passage de l'Ancien Testament que je vous lisais tout à l'heure. Notamment, si tes péchés sont cramoisis, je les rendrai plus blancs que la neige. Par contre, nous verrons que le pardon humain ne signifie nullement l'oubli de l'offense. Nous n'oublions pas les offenses, mais nous pouvons aller au-delà. D'autre part, le pardon divin réconcilie l'homme avec Dieu. C'est une véritable réconciliation, comme le mot d'ailleurs du sacrement de réconciliation nous le rappelle. Et le pardon divin implique nécessairement, c'est ce que je viens d'essayer de vous dire pendant une demi-heure, un mouvement réciproque, une synergie entre Dieu et l'homme. Le pardon divin ne peut pas agir sans sa réception par l'homme. Et le pardon divin nous réconcilie donc avec Dieu. Par contre, le pardon humain n'implique pas réconciliation. Il y a des pardons, nous le verrons, sans réconciliation possible. Enfin, le pardon divin coule de source et, très exactement, de la source paternelle, des entrailles paternelles et maternelles de Dieu. Il est spontané. Il émane de celui qui est le don parfait, c'est-à-dire le pardon, dans son être même. Alors que le pardon humain est loin de couler de source, nous en savons tous quelque chose, je suppose. Le pardon humain est ardu, c'est un long processus de transformation personnelle, comme nous allons le voir dans le chapitre suivant, si vous avez le courage de m'écouter dans le troisième exposé. Alors maintenant nous avons la pause thé-tisane, promenade solitaire, et pour les choristes après la pause thé-tisane, la répétition du commun de carême. Merci.